Confession de théologie par le Père Marie-Dominique Philippe à Rimont, le 25 août 1993, 8e conférence.
Je sais bien que quand on veut entrer un peu au point de vue de la théologie, dite scientifique, celle de Thomas d'Aquin, ça demande un effort plus grand au point de vue réflexion. Alors, recevez ce que vous pouvez recevoir, ne vous inquiétez pas. Il faut bien distinguer la foi et cette réflexion qui fait partie du patrimoine de l'Église. Il ne faut pas l'oublier. Tous ceux qui ont réfléchi en priant, la théologie doit se faire en priant. Tous ceux qui ont réfléchi en priant sur ce mystère de la très sainte Trinité et de l'Esprit Saint font partie de la vie de l'Église. Ça fait partie de la tradition. Tradition vivante. Une tradition qui doit nous éclairer sur nous-mêmes. Alors je pousse encore un tout petit peu l'effort. Parce que je crois que c'est bon. Comprenez bien, il faut tout le temps revenir à cela. C'est Jésus lui-même qui nous enseigne le mystère du Paraclet, le mystère de l'esprit de sainteté, de l'esprit de vérité. C'est Jésus lui-même. Et spécialement dans l'évangile de Jean. Je n'ai pas vu tout l'évangile de Jean, j'ai voulu simplement voir ce moment de l'enseignement de Jésus qui est le sommet, je crois, auquel il faut tout le temps revenir et qui nous aide à mieux comprendre la relation de l'Esprit Saint et du Père, la relation de l'Esprit Saint et de Jésus. C'est ça que je voudrais voir avec vous ce soir. La relation de l'Esprit Saint et du Père, elle est parallèle à la relation du Fils bien-aimé avec le Père. Pensez au prologue de l'évangile de Jean. Dans le principe, in principio, dans le principe, le Verbe était. Il procède de cette source cachée qui est le Père. Source cachée de lumière et de vie, le Père, en se contemplant, puisqu'il est esprit. Sa vie d'esprit, c'est sa contemplation, c'est son amour. Et le Père se contemple directement lui-même. Il est pur esprit. Et il est sans aucune composition, sans aucune limite. Il est infini. en acte, et en acte de connaissance, de contemplation. Et c'est pour ça qu'on dit qu'il est lumière, pour que nous puissions comprendre cette limpidité absolue de sa contemplation. Le Père, en se contemplant, est source lumineuse de celui qui provient de lui, dans une unité parfaite, puisque cette procession et le fruit de cette procession ne divisent rien en Dieu. Le mystère de la simplicité. Je ne peux dire ça que parce que l'Écriture et Jésus lui-même le dit, qu'il procède du Père et qu'il retourne vers le Père et qu'il est un avec le Père. C'est le premier moment de ce mystère de fécondité en Dieu, cette fécondité toute divine, toute lumineuse. Et c'est le mystère de l'incarnation, le Verbe de Dieu qui assume la nature humaine, qui nous révèle lui-même son intimité avec le Père. Le Père lui donne tout ce qu'il est. Je ne dis pas tout ce qu'il a, puisque en Dieu et dans le Père, tout ce qu'il est et tout ce qu'il a sont identiques. Il n'y a pas d'avoir, il n'y a rien qui s'ajoute à son être. La simplicité absolue dans cette contemplation de lui-même. Et cependant, il est distinct du Père, puisqu'il provient de lui. Et la seule distinction, c'est qu'il provient de lui. Autrement, tout ce que le Père a, le Fils l'a. Il n'y a pas une qualité particulière du Père et une qualité particulière du Fils. C'est là, vous voyez, le mystère. Hein, ce que nous... Puisque c'est distinct, il y a nécessairement quelque chose que le Fils a et que le Père n'a pas. Alors que nous devons dire qu'ils sont un dans leur être et distincts dans leur personne. Un dans ce qu'ils sont et distincts dans leur personne. Et nous affirmons en même temps, grâce toujours au mystère de l'incarnation, puisque la révélation de la très sainte Trinité s'est faite pour nous explicitement par le mystère de l'incarnation. C'est le Fils, en assumant notre nature humaine, qui nous révèle le Père. Dans l'Ancien Testament, le Père était déjà révélé, mais plus comme créateur et comme créateur d'esprit, des anges et de l'âme humaine spirituelle. Et cela, des philosophes grecs qui n'avaient pas reçu la révélation, le disait. Et Proclus, deuxième siècle après Jésus-Christ, mais sans doute n'ayant pas connu du tout la révélation, dit Dieu est créateur du monde physique et il est père de la vie de l'homme et de l'esprit de l'homme. C'est très beau, du reste. Et au point de vue purement de la réflexion philosophique, il voit cette paternité. Il est le père de la vie. Cette distinction très nette. Il est créateur d'être et il est père de la vie. Et il est père de la vie spirituelle, de l'intelligence, de la volonté. Cette paternité est dans le prolongement de la création. Tandis que lorsque Jésus nous révèle le Père, notre Père qui est aux cieux, lorsque Jésus dit Père Saint dans sa grande prière, chapitre 17 de son évangile, Jésus nous révèle la paternité du Père sur lui comme fils. Et donc il nous révèle autre chose que le Créateur. Il faut toujours être très attentif à cela. Nous pouvons parler de Dieu comme Père au niveau de la création. Et nous pouvons parler du Père, de son Fils bien-aimé, du Verbe, ce que l'intelligence humaine par elle-même ne peut absolument pas atteindre. Et Jésus nous dit d'une manière très nette qu'il nous enverra le Paraclet, l'Esprit de vérité, qui nous enverra la troisième personne de la très sainte Trinité, celui qui a été au point de départ de la formation du corps du Christ, de la nature humaine de Jésus. L'Esprit de vérité. Il procède du Père, il provient du Père comme le fruit de son amour. Quel est le lien entre la seconde personne de la très sainte Trinité, le Verbe, et le Verbe devenu chair, avec l'Esprit Saint? Vous avez remarqué, j'espère, en regardant les cinq affirmations successives, que Jésus commençait par montrer le lien du Paraclet du Père deux fois. Puis la troisième fois, il montre le lien du Paraclet avec lui, sans du tout supprimer le lien du Père. Mais à l'intérieur de ce lien du Père apparaît ce lien du Paraclet avec le Fils bien-aimé. Et Jésus va jusqu'à affirmer, en dernier lieu, « Je vous enverrai le Paraclet. » Alors, c'est là où les théologiens, Thomas d'Aquin, tout spécialement, a beaucoup réfléchi. Qui peut dire « Je vous enverrai le Paraclet » ? Normalement, quand on dit qu'on envoie quelqu'un, c'est qu'on a autorité. Les assignations, On envoie quelqu'un en Afrique. On envoie quelqu'un au Texas. On l'envoie pas encore dans la Lune, mais ça viendra. Non ? La nouvelle évangélisation. On exerce l'autorité sur quelqu'un. Qui peut exercer autorité sur l'Esprit Saint, puisque l'Esprit Saint est Dieu, comme le Fils, il ne fait qu'un. C'est vrai. Si je dis que le Père envoie son Fils, Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils, qu'il a envoyé son Fils. Le Père nous a envoyé son Fils, le Verbe incarné. Et nous l'a envoyé pour qu'il soit notre sauveur. Celui qui porterait au plus intime de son âme humaine, toutes les conséquences du péché. Et qui se présenterait au Père comme le seul responsable de tous les pécheurs humains. Grand mystère de l'agonie. C'est toujours le Père qui l'envoie. Le Père envoie le Fils parce que il est Père. Il est source du Fils, et que le Fils lui est totalement relatif, et que le Fils est un avec lui, mais distinct de lui, et que le Père est source, une source qui donne tout. Et donc, ce n'est pas une source qui a une priorité qualitative que le Fils n'a pas. Il est pure source. Il est pur premier. C'est ça qui est infiniment mystérieux. Mais il y a un véritable ordre entre le Père et le Fils, parce que le Père est source du Fils. Et étant source du Fils, il peut l'envoyer, non pas parce qu'il a autorité sur le Verbe. Dans la très sainte Trinité, il n'y a pas d'autorité, il n'y a que l'amour. Il n'y a que la contemplation amoureuse et lumineuse du Père et du Fils, et de l'Esprit Saint. L'autorité apparaît pour la création. Dieu est Seigneur parce qu'il est Créateur. Et l'autorité apparaît d'une manière très intime dans la très sainte Trinité à partir du mystère du Verbe incarné. Verbe qui assume la nature humaine fait que dans le Christ il y a sa vie de Fils bien-aimé du Père, de Verbe, et il y a la vie de la nature humaine du Christ. Et à l'écart de cette nature humaine qui a sa vie propre, assumée par le Verbe, le Père peut exercer son autorité. Il peut exercer son autorité sur le Christ en tant qu'il est homme. Et c'est pour ça que Jésus peut dire, en tant qu'il est homme, le Père est plus grand que moi. si le Père est plus grand que lui, il peut obéir au Père. Vous voyez, c'est très délicat. Il faut voir combien l'Église, lentement, est arrivée à ces précisions grâce au Concile. Et donc, j'allais dire, comprenez bien, grâce aux hérésies. Opportet thereses esse. Il y a eu des déviations, et à cause de ces déviations, l'Église a pris conscience plus nette dans sa foi de ce que représentait ce mystère de l'incarnation par rapport au Père et par rapport au Verbe. C'est pour cela que quand Jésus dit « Je vous enverrai le Paraclet », est-ce que Jésus n'indique pas alors, non pas qu'il a autorité sur l'Esprit-Saint, mais qu'il est source de l'Esprit-Saint, dans le Père. Je ne dis pas avec le Père, mais dans le Père. Puisqu'il ne fait qu'un avec le Père, il peut donc être source de l'Esprit-Saint dans le Père, étant un avec le Père. Et cette procession, on l'appelle l'aspiration d'amour. Dieu, le Père et le Fils s'aiment dans l'unité. Et le fruit de cet amour, c'est l'Esprit Saint. Il est l'amour de l'amour. Vous voyez, comme le Verbe est la lumière de la lumière, je peux dire que l'Esprit Saint est l'amour de l'amour. Il se distingue du Père et du Fils parce qu'il reçoit tous deux. Il se distingue du Père et du Fils dans cette spiration d'amour. Et c'est à l'intérieur de cet amour qu'il reçoit du Père et du Fils, qui se distingue d'eux. L'Esprit Saint reçoit tout du Père et du Fils. Il est donc l'amour de l'amour. Il est celui qui exprime pour nous de la manière ultime le mystère de la très sainte Trinité. Et c'est peut-être cela qui est le plus beau à contempler. Il est vraiment l'amour de l'amour. Dans la simplicité absolue du Dieu unique. C'est selon cette procession d'amour que nous pouvons préciser ce qui caractérise cette spiration dans cette extase éternelle d'amour où le Père et Jésus et le Fils bien-aimé s'aiment. Il y a ce fruit qui est la troisième personne de la très sainte Trinité et qu'on appelle Esprit. Et saint Thomas souligne le nom commun de l'Esprit Saint, puisque le Père est Esprit et le Fils et l'Esprit. Et on attribue spécialement à la troisième personne de la très sainte Trinité le nom d'Esprit. Pourquoi ? Parce que dans l'ordre de l'amour, on a un langage très pauvre. C'est le théologien qui dit ça. Dans l'ordre de l'amour, on est comme des tout petits. Parce que l'amour est toujours au-delà de tout ce que nous pouvons connaître, tout ce que nous pouvons saisir, tout ce que nous pouvons exprimer, puisqu'il est extatique. Il fait sortir au-delà de nos limites. Et en Dieu, l'amour est substantiellement esthétique. C'est le grand mystère de cet amour substantiel de Dieu. Et dans cet amour substantiel, la foi nous dit qu'il y a un fruit. Le fruit de l'amour, qui ne peut être qu'amour. Et nous n'avons pas de mots particuliers pour l'exprimer. Quand il s'agit du Fils, on dit qu'il est Fils. On dit qu'il est le Verbe. En disant qu'il est le Verbe, on montre qu'il est le fruit de la contemplation. En tant qu'il est Fils, on montre qu'il y a un lien substantiel entre le Père et le Fils. Parce que le Père est source d'une vie substantielle. Parce qu'il est Père. Et quand il s'agit du Père, un avec son Fils bien-aimé, qui est source de l'Esprit Saint, on n'a aucun terme humain. Le langage humain est pauvre. C'est sans doute pour ça, vous voyez, que le mot paraclet est un mot propre, inventé par l'Esprit Saint dans l'Évangile de Jean. Qui n'est pas du tout un mot de littéraire et qui exprime celui qui est l'amour de l'amour. Alors on prend le terme commun, il est l'Esprit Saint. Oh, Esprit, les trois personnes divines sont Esprit et les trois personnes divines sont Saintes. C'est le Dieu trois fois Saint. Et on prend ce terme commun, Esprit Saint, parce que nous n'avons pas de mots propres. Je trouve ça très beau, moi, parce que ça fait comprendre que ce mystère de l'Esprit Saint, nous devons le comprendre, le saisir, le contempler de l'intérieur, par l'amour. L'amour ne se comprend que par l'amour. Il ne peut être saisi que par l'amour. L'intelligence, quand elle veut saisir ce que c'est que l'amour, elle est obligée toujours de reconnaître que ce qu'elle saisit est quelque chose de très partiel et que l'amour dépasse. C'est pour ça qu'on dit extatique. Il fait sortir des déterminations. Il est au-delà. Alors aujourd'hui, on dira le dynamisme de l'amour. Mais ça ne dit rien de plus hein, quand vous cherchez le dynamisme de l'amour. C'est... Ça veut dire que l'amour implique cette extase. Et j'aime mieux dire extase. C'est plus personnel que dynamique. Parce que pour beaucoup de choses sont dynamiques et il y a peu de choses extatiques. Il n'y a que l'amour qui est extatique, qui nous permet de nous oublier et d'être en celui qu'on aime. Précisons encore, autant qu'on le peut, on sait très bien que le mystère de la très sainte Trinité nous en vivons dans la foi, l'espérance et l'amour. Que ce mystère nous échappe, mais nous savons qu'il y a trois personnes dans la simplicité absolue de l'être de Dieu. Et nous pouvons dire alors, si vous vous rappelez ce que nous avons vu en regardant la révélation de la très sainte Trinité selon l'Apocalypse et la révélation de la très sainte Trinité selon l'Évangile de Jean. Nous avons vu qu'on était en présence de deux ordres différents. Et j'avais essayé de vous dire que si l'Esprit Saint faisait cela, c'était pour que nous dépassions le schème pour respecter le mystère. Et que l'Esprit Saint, donnant ces deux ordres différents, nous oblige de dépasser l'un et l'autre pour entrer dans le mystère. Puisque cet ordre est un ordre tout à fait particulier. Nous, dès qu'on parle de l'ordre, tout de suite, hein, le second est extérieur au premier, et le troisième est extérieur au premier, au second. Alors qu'ici, il y a ordre, mais un ordre divin, dans la simplicité absolue. C'est pour ça que le second, qui est le Fils bien-aimé, n'est pas extérieur au premier, le Père. Il est in sino patris. C'est ce qui est dit dans le prologue de Saint Jean. Il est dans le sein du Père. Il est caché dans le sein du Père. Il est présent dans le sein du Père. Et l'Esprit Saint, lui aussi, demeure dans le Père et dans le Fils. Et le Père et le Fils demeurent en lui. Il y a encore unité absolue dans l'ordre de l'être, dans l'ordre de la réalité existante. Et distinction d'origine. La seule distinction qui permet de ne rien ajouter de qualité à celui qui provient du premier. Alors, comprenons maintenant, si vous voulez, ces deux ordres, celui de l'Apocalypse et celui de Saint Jean. Et je crois que c'est très important, ça, aujourd'hui. L'ordre de Saint Jean, c'est cet aspect contemplatif à l'intérieur de la simplicité absolue de Dieu. Nous découvrons la source le Père, source du Fils, source de l'Esprit. Et nous comprenons que cette source de l'Esprit implique le Fils. Parce que entre le Père et le Fils, la seule distinction possible qu'il peut y avoir, c'est la distinction d'origine. Le Fils en tant que Fils est distinct du Père. Autrement, il est un avec le Père. Et c'est pour ça, quand il s'agit de la troisième personne de la très sainte Trinité, l'amour de l'amour, seule distinction que nous pouvons saisir, c'est encore une distinction d'origine. Et donc, si l'Esprit, l'Esprit Saint, ne provenait pas de la deuxième personne de la très sainte Trinité, il n'y aurait plus de distinction entre eux. Tandis que si l'Esprit Saint se distingue du Fils, ce qu'on est obligé d'admettre dans notre foi, et ce qui est très net quand Jésus dit « Je vous enverrai le Paraclet », on ne peut pas s'envoyer soi-même, on se donne soi-même, mais on ne s'envoie pas soi-même. Il y a donc une distinction très nette. La foi l'exprime entre eux, le Fils et l'Esprit. Et cette distinction ne peut être qu'une distinction d'origine. Et le Fils, en tant qu'il est source de l'Esprit, ne se distingue pas du Père. Et donc il est un dans le Père. Et ceci doit être contemplé de l'intérieur. Nous saisissons dans la foi le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Et dans la foi, nous les distinguons et nous les aimons et nous les contemplons. Nous comprenons comment dans l'Apocalypse, où on est en présence du gouvernement de Dieu, sur l'Église, sur l'univers. C'est bien l'Esprit Saint qui, lui, qui plane sur les eaux, qui, lui, est ultime dans la très sainte Trinité. C'est lui qui est envoyé en premier lieu. C'est lui qui, en quelque sorte, immédiatement révélé face au Père. Et comme il est source de l'humanité sainte du Christ, et que le Verbe de Dieu se révèle à travers le mystère de l'incarnation. Il faut donc comprendre ce qui est source de l'incarnation, l'Esprit Saint. Selon une théologie de l'économie divine, on comprend très bien qu'on regarde l'Esprit Saint directement comme celui qui l'a envoyé du Père. Et comment, à travers lui, nous découvrons le mystère du Verbe devenu chair, le mystère des quatre vivants dans l'Apocalypse. Mais cet ordre de la théologie de l'économie divine ne s'oppose en rien avec l'autre ordre on essaie de contempler Dieu en lui-même. Donc je crois que nous devons maintenir ces deux perspectives, ces deux lumières, ces deux révélations. Tu vois, on n'a pas le droit d'en laisser tomber une en disant « moi je suis pour l'une et l'autre non ». Nous ne faisons aucun choix quand il s'agit de recevoir la révélation. Nous recevons la révélation telle qu'elle nous est donnée. Et nous essayons de comprendre le pourquoi quand il y a une diversité, quand il y a deux aspects différents, ce que nous avions fait à propos de la création au début de la Genèse. Pourquoi ces deux révélations ? Pourquoi ces deux révélations sur l'ordre des trois personnes divines ? Cherchez, hein, si vous trouvez une autre raison, vous me le direz. J'ai beaucoup cherché. Parce que c'est quand même très important. Je voudrais encore ajouter un autre aspect qui nous aide toujours à pénétrer dans le mystère de l'Esprit Saint. Pour essayer de nous approcher le plus possible de celui qui nous est donné, qui nous est envoyé. Jésus est venu pour nous l'envoyer. Il est venu pour cela. Il est venu pour nous purifier de nos péchés, satisfaire miséricordieusement dans un amour et une miséricorde infinie. Mais il veut que nous ayant purifiés par son sang, par son amour, il veut nous entraîner plus loin par l'Esprit Saint. Il faut qu'il y ait déjà en nous une pureté fondamentale, réalisée par le mystère de la parole de Dieu qui nous est donnée. Il faut qu'il y ait déjà cela pour qu'il puisse y avoir cette nouvelle sanctification, cette nouvelle divinisation qui ne dédouble pas la première. Il n'y a pas la grâce de Jésus et la grâce de l'Esprit Saint. On est sanctifié par la grâce. Et la grâce provient comme source principale de la très sainte Trinité, et donc de l'Esprit Saint et du Père et du Verbe, par l'intermédiaire de l'humanité sainte du Christ. Cette grâce, elle nous est donnée par Jésus. Et elle nous est donnée par l'Esprit Saint. Et je dirais, la manière dont l'Esprit Saint nous la donne, mais cette modalité particulière que l'Esprit Saint habite en nous. Il est présent. Et cette habitation de l'Esprit Saint en nous est distincte de la vie, je ne dis pas autre, elle est distincte de l'habitation de l'Esprit Saint en nous. Donc, le Verbe de Dieu habite en nous, et l'Esprit Saint habite en nous, le Verbe de Dieu incarné habite en nous, et l'Esprit Saint habite en nous. Et la grâce qui divinise notre âme est le fruit de cette mission d'Esprit Saint et du Verbe devenu chair. Ce n'est pas deux grâces distinctes, c'est la même grâce sanctifiante. Et cette grâce sanctifiante qui vient de l'Esprit Saint, qui vient du Verbe de Dieu, incarné, le mystère du Christ. Cette grâce qui s'épanouit en nous à travers la foi, l'espérance et la charité. Cette grâce nous permet d'atteindre de l'intérieur le Père, le Fils et l'Esprit Saint. Il y a une expérience d'amour distincte qui peut s'expliciter en nous. L'expérience du Père, l'expérience du Fils et l'expérience de l'Esprit Saint. Vous voyez, c'est très, très important à bien préciser cela. Du côté de la causalité efficiente, il y a un seul effet. Et du côté du retour dans la finalité, il y a un toucher distinct, une connaissance distincte du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Parce que du côté de l'efficience, on regarde la grâce en tant qu'elle est créée dans notre âme, en tant qu'elle nous est communiquée. Du côté de la finalité, on est du côté de la vie de la grâce. Or, la grâce nous donne une vie divine éternelle. Et la vie divine, elle est trinitaire. Et donc, la grâce nous permet de vivre cette vie de la très sainte Trinité comme la très sainte Trinité la vit. Bien comme, c'est-à-dire d'une façon imparfaite, mais d'une façon réelle. Et le mystère de la très sainte Trinité, par notre grâce sanctifiante, n'est plus quelque chose d'extérieur à nous. C'est au contraire un mystère de présence intime. Nous sommes présents au Père par l'Esprit. Nous sommes présents au Fils par l'Esprit. Nous sommes présents à l'Esprit Saint par le Père et par le Fils. Et tout ce mystère que l'Esprit Saint nous fait vivre de l'intérieur. Je voudrais, avec vous, regarder et essayer de comprendre ce passage que je commente souvent parce que je le trouve tellement beau. C'est au chapitre 17 dans Saint Jean. La grande prière de Jésus. La grande prière du Fils bien-aimé. Qu'on dit ordinairement prière sacerdotale. Mais j'aime mieux dire prière du Fils bien-aimé. C'est cette prière que se termine tout l'enseignement du Christ. Et voyez bien, Jésus nous enseigne selon un mode d'enseignement. Chapitre 14, 15, 16. Et Jésus nous enseigne comme une mère enseigne ses enfants en priant avec eux, ou un père. La grande prière du Christ au chapitre 17 dans Saint Jean est encore un enseignement du Christ. Pourquoi ? Parce que ça nous fait entrer dans la relation intime du cœur du Christ avec le Père. Et cette prière, nous ne pouvons la faire que sous le souffle de l'Esprit-Saint. Et elle nous est donnée pour que nous puissions la faire. J'aime te dire, la révélation n'est pas une vitrine. Et vous dites ça bien, vous comprenez toute la différence qu'il y a. Une vitrine, c'est fait pour la séduction. C'est pour qu'on achète. Tout bien, ça nous donne des idées. Parce qu'on voit la cause exemplaire. La révélation, elle se fait dans l'amour de l'intérieur. Et tout ce qui nous est révélé nous est donné. Sans qu'on ait à l'acheter. Au niveau des vitrines, il y a une diversité. Parce que le porte-monnaie est différent des diverses mamans qui regardent au moment de Noël les merveilleuses inventions de jeux pour leurs enfants. Soyez un peu attentifs à ça quand vous voyez ça. Parce que je trouve ça tellement cruel, moi. De temps en temps, s'arrêter, regarder. Petite expérience. C'est terrible. Surtout au moment de Noël, parce que c'est la fête de la joie, là. Il ne devrait pas y avoir de tristesse. Il y a des vitrines étonnantes de jouets. Hein. Des jouets très savants. Alors le gosse regarde le jouet et ne regarde pas le prix. Mais la mère qui est auprès du gosse, elle regarde le prix. C'est la seule chose qui l'intéresse. Hein. Tandis que le gosse, c'est le jouet. Et si c'est trop cher, la mère dit c'est trop cher. Bien, bien. Pour le gosse, ça veut rien dire, trop cher. Un bout de papier en moins, un bout de papier en plus. Trop cher. Et ce même gosse voit une autre maman avec un autre gosse. Même âge. Et le gosse est en admiration. Et la mère regarde. Ah, tu veux, on va entrer. Donc la maman n'est pas bonne puisqu'elle a refusé de l'acheter. Et les premiers refoulements, je ne sais pas si les psychanalystes tiennent compte souvent de ça. Moi je tiendrais beaucoup compte de ça. Parce que je crois que ce sont les refoulements les plus terribles. Je connais des cas où je vois combien ce refoulement a été farouche. C'est vrai, la mère a refusé quelque chose à l'enfant qui le désirait. Et l'enfant est tout entier dans ce désir. Il n'y a rien qui excite plus le désir de l'enfant que ces petits, ces jeux extraordinaires ou des poupées merveilleuses. petit enfant, vous comprenez ça aussi. Pour une petite fille, c'est quand même étonnant. La mère regarde le prix. Trop. Eh bien, la révélation n'est pas une vitrine parce que Dieu n'aime pas les refoulements. Et chaque fois qu'il éveille en nous un désir, une soif d'amour, il nous le donne. C'est ça qui est merveilleux. Il nous donne tout de suite. Le cri de soif du Christ par rapport au Père. Voyez, nous considérons beaucoup trop souvent la révélation comme une vitrine. On va dire, oui, la prière de sacerdotale du Christ, c'est bon pour les contemplatifs, c'est bon pour les moines, mais moi je suis un laïc dans le monde, alors non. Alors on ne la lit jamais. Ça coûte trop cher. Ça coûte rien, ce qui est merveilleux. Venez, prenez. C'est merveilleux de voir que la révélation qui relève de l'Esprit Saint, c'est l'auteur principal. Et donc ça nous fait comprendre que l'Esprit Saint se donne. Dans la mesure où nous avons soif. Alors il y a ce passage, je le verrai demain, parce qu'il ne faut pas être trop tard ce soir. Vous me le rappellerez. On va mettre une grosse note comme ça, n'est-ce pas.